Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. On va parler aujourd'hui d'une expérimentation menée entre autres avec les soignants du pays de Château-Gontier, avec l'hôpital du Haut-Anjou, pour une expérimentation qui vise à éviter toutes les erreurs dans les prises de médicaments chez les seniors. On va voir justement comment ça fonctionne. On a poussé aussi les portes de l'entreprise Longchamp à Château-Gontier, qui emploie quasiment une centaine de personnes depuis plus de 20 ans sur site pour fabriquer des sacs de haute couture. On a vérifié justement comment, enfin pas vérifié en tout cas, mais vu comment ça se passait et rencontré certaines de ses salariés. Et puis aujourd'hui, vous êtes chanceux, deux chroniques pour le prix d'une. Une chronique sport avec Steven, où on va parler foot du côté d'Azé, et une chronique cinéma avec Atmosphère 53. Mais tout de suite, on va justement expliquer cette expérimentation, ce projet Octave, qui a pour but d'éviter les erreurs dans la prise de médicaments chez les seniors. Il sera lancé dans les prochaines semaines dans la région, et notamment avec le centre hospitalier du Haut-Anjou et les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières libérales du territoire. Un fichier unique sera créé pour chaque patient de plus de 65 ans et transmis aux différents acteurs du soin avant, pendant et après une opération chirurgicale. Explication avec Mélanie Boisseau, elle est chef de service de la pharmacie du centre hospitalier du Haut-Anjou.
Alors, ce projet consiste à partager une information chez un patient âgé de plus de 65 ans, polymédicamenté, qui va avoir une chirurgie programmée, donc qui est adressée par son médecin traitant vers un chirurgien de notre centre hospitalier. Et pour éviter les risques d'erreurs médicamenteuses, les risques de rupture lors de cette hospitalisation, nous allons nous baser sur les professionnels de la ville, donc en particulier les pharmaciens d'officine, les infirmières libérales, et les médecins généralistes qui vont pouvoir collecter l'exhaustivité du traitement du patient pour que ce bilan médicamenteux nouvellement créé puisse être transmis notamment à l'anesthésiste qui pourra avoir une information fiable et exhaustive pour sa consultation de pré-anesthésie. Et donc à l'issue de cette consultation, en toute sécurité, l'anesthésiste pourra adresser au patient ses consignes concernant ses médicaments. Donc ensuite, à la sortie de son hospitalisation, en cas de modification de traitement, le médecin généraliste et les infirmières de ville pourront avoir une information sécurisée pour qu'il n'y ait pas d'accident concernant les traitements du patient. Les principaux risques quand on parle de médicaments, ce sont des risques soit d'oubli de traitement, parce que le patient a oublié une ordonnance lorsqu'il va voir l'anesthésiste, et donc l'anesthésiste n'a pas les informations exhaustives de son traitement. Ça peut être une erreur de saisie sur une posologie, si l'ordonnance est manuscrite par exemple, et qu'on lit pas bien. Ou ça peut être à la sortie du patient, si un traitement a été arrêté ou modifié, si on ne l'explique pas au médecin généraliste, aux pharmaciens d'officine, le risque que ce traitement soit remis en place et puisse engendrer des erreurs médicamenteuses. À long terme, on peut aussi attendre une baisse des réhospitalisations post-chirurgie chez ces patients-là, puisque la qualité de leur prise en charge a été assurée. Le patient va entrer dans un véritable parcours où tous les acteurs vont être identifiés, et notamment son pharmacien, son infirmière, son médecin généraliste sont vraiment importants dans ce parcours-là. Et le fait de savoir que l'information va leur en être donnée, ça peut les sécuriser parce que ça va diminuer l'anxiété du patient qui se sent un peu tout seul éventuellement à la sortie de l'hospitalisation avec son ordonnance.
Et les patients qui correspondent à ces critères peuvent aussi refuser de participer au dispositif s'ils le souhaitent. Une personne a été recrutée à l'hôpital de Château-Gontier pour la mise en place de ce programme. Elle sera là à partir du 1er février. L'expérimentation devrait durer 3 ans avant une possible extension au niveau national. On va partir à la visite des ateliers Longchamp juste après avoir écouté Sorg and Napoleon Maddox, c'est What's Your Joy.
What's your happiness? Can you be content? that I stayed. Took all I laughed, trouble I prayed. Had days took for me to see what's mine. A moment to breathe, in my right mind. If I got that, then the rest could be fine. Like my folks made fresh, even the flesh of the swine. They made the choice to decline with the passing of time. Know the best, do the better with pride. It's called content, cause it come from inside. They could take it from you, then you gave it away. Be happy not to have it, it was just in a way. Drop the junk to grab a priceless gem. And gain a bigger dose when you give it to friends. And the enemies always change. So treat the lovers and the haters the same. Soon come the joy that you could hardly explain.
Tell me, what's your joy? What's your happiness? Can you be content when there's nothing left? What's your joy? What's your happiness? Will you be content when there's nothing left?
When the fullness of time do come, I'm going back where we all came from. Not in a rush, but I do sleep some. So when the curtains close, yo, I won't feel dumb. I won't feel robbed, I won't be mad. I won't be stressed about the stuff I had. Cause if it's possible to have, I can get it again. Or never lose it at all. Like love or friends, like hope or peace. Or being content, these heartbeats on loan. But we don't pay rent, waste not, want not. That's my two cents. Pick it up or leave it there, you know what I meant. These days a game, every moment a gift. I'm not blowing my wind, do you get my drift? From my shells, yo, I'm shaking the dust. To catch every gust, uplift I must.
What's your joy? What's your happiness? Can you be content if there ain't nothing left? And tell me, what's your joy? What's your happiness? Can you be content when there ain't nothing left? What's your joy? What's your happiness? Can you be content if there ain't nothing left? What's your joy? What's your happiness? Can you be content when there ain't nothing left?
Aujourd'hui, vendredi 12 novembre, vous êtes toujours dans la JT du local sur l'autre radio et on va pousser la porte des ateliers Longchamp à Château-Gontier avec leurs locaux situés route de Marigné-Peton depuis plus de 20 ans maintenant. Une centaine de salariés s'affairent à confectionner à la main des sacs de luxe en toile et en cuir et on a profité d'une visite organisée avec le sous-préfet de Château-Gontier, Samuel Gesseret, pour rencontrer les salariés et les responsables de l'atelier de Longchamp.
On a la particularité d'avoir le sac pliage et ensuite on fabrique toutes sortes d'autres produits du catalogue.
Il n'y a pas une spécialité par site ou par...
Oui. Ici on va fabriquer essentiellement du sac dame et sac homme. En revanche, on ne fabriquera pas de ceinture ni de petites maroquineries.
D'accord, ok.
Alors moi c'est Jocelyn Martineau, je suis le responsable de la fabrication sur le site de Château-Gontier.
Et Marc Barbin, je suis le DRH industriel de la marque.
Déjà peut-être un peu une carte d'identité de Longchamp ici à Château-Gontier. Depuis quand l'entreprise existe ici sur ce site et ça représente combien de salariés, combien de personnes ?
Alors l'entreprise est présente sur le site depuis 2001 et aujourd'hui nous avons 98 personnes qui travaillent sur le site.
Longchamp, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, production de sacs à main de luxe ?
Tout à fait, de luxe, de haut de gamme, des sacs en cuir, des sacs en toile, que l'on distribue par l'intermédiaire de notre réseau et on est présent à travers différents pays dans le monde entier.
La maison mère est donc à Segré, ici à Château-Gontier. Qu'est-ce que vous faites ?
essentiellement de la fabrication. Eh bien, on reçoit très concrètement, on reçoit de la matière première qui nous est envoyée par le site principal donc de Cerie, comme vous le précisiez. Et à partir de cette matière première, on va transformer cette matière pour obtenir des produits finis. C'est-à-dire qu'on fabrique des sacs de A à Z. On ne fabrique pas seulement des bandoulières ou seulement des poignées. Il en ressort des produits finis. Dans les grandes étapes, la première, c'est de couper bien sûr les différentes matières que vont constituer le sac, donc que ce soit du cuir, de la doublure, des renforts ou de la toile pour des sacs en toile. Ensuite, on va avoir tout un procédé de coloration pour teindre, puis des opérations de table et de piquage qui vont faire que petit à petit, le sac va se constituer, va se monter, pour ensuite terminer sur des phases de finition où on va bichonner le sac pour qu'il soit à la qualité, à la hauteur de la qualité Longchamp, et terminer finalement par l'emballage avant d'être expédié sur notre plateforme logistique basée sur ce gris. Pour un sac, en moyenne, alors c'est très variable, hein, ça va dépendre bien sûr de nos sacs. Un sac en cuir, en règle générale, on va être sur une soixantaine de minutes pour produire un sac en cuir. Et puis sur un sac en toile dit pliage, on va être sur entre 15 et 20 minutes pour un sac. Tout est prévu, tout est étudié sur ce gris.
Pour reprendre au tout départ, donc, jusqu'à arriver donc, ici en production, il y a vraiment aussi l'idée déjà, alors tout ce qui est vraiment le stylisme, pour le coup, là ça se passe à ce gris.
Alors ça se passe à Paris, au siège de la marque. Hein. La marque est avant tout une marque parisienne. Et le style aujourd'hui est dirigé par notre directrice artistique, Sophie de la Fontaine, qui fait partie de la troisième génération de notre famille qui possède la marque. Jean Cassegrain aujourd'hui dirige la marque et Sophie de la Fontaine l'accompagne sur les créations. Donc le style développe nos produits et une fois le style finalisé, nous l'envoie, nous à ce gris et à nous d'industrialiser, de fabriquer et d'expédier à nos clients. Tout dépend des priorités. Effectivement, il y a des collections où on doit être de plus en plus réactif. Le marché, le client, il attend aujourd'hui son sac à main de plus en plus sur d'une fenêtre beaucoup plus court terme. Par contre, effectivement, on pense les collections très en amont, un an, mais certaines collections se font et se réfléchissent et se pensent de manière un peu plus courte. Mmh. À nous d'être à la hauteur et de produire rapidement pour nos clients.
La crise sanitaire qui a forcément aussi impacté ici la production, mais il y a aussi cette reprise. Depuis quand est-ce que là vous reprenez sur un rythme un peu plus soutenu ici à Château-Gontier ?
Eh bien je dirais depuis le retour des congés d'été, début septembre. Concrètement, nos ateliers tournent à plein régime et aujourd'hui on cherche aussi à renforcer nos équipes par le biais de recrutement. Tout type de postes que l'on retrouve dans nos ateliers, hein, pas forcément des postes de piquage, mais c'est aussi des postes de coupe-cuir, des postes de table, de conditionnement, d'emballage. Voilà, on a différents postes.
Aujourd'hui, sur l'ensemble du périmètre industriel France, nous recherchons près de 70 personnes, donc des emplois logistiques, des opérateurs logistiques pour travailler sur notre centre logistique à ce gré qui va expédier l'ensemble de nos produits dans le monde et réceptionner nos matières. Nous avons des emplois de maroquiniers, maroquinières sur l'ensemble des sites de production France, notamment, je pense, notre site en Vendée, à Pouzauges, Château-Gontier, on l'a évoqué, en Mayenne, on a également un site à Ernée. Et tous ces sites-là, aujourd'hui, sont dans une phase de besoin. Donc on recherche beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre le métier. On n'a pas besoin de savoir faire le métier, on a juste besoin d'envie, une petite dextérité, et nous, on accompagne. On accompagne nos collaborateurs, qu'ils soient là depuis longtemps, mais également toutes les personnes qu'on peut recruter. Et beaucoup viennent d'univers très différents, du secteur du service, de l'industrie, des réorientations. Et on sait qu'on est dans une phase de société où on réinvente nos métiers, on change de carrière plus facilement. Donc à nous, entreprises, d'être au rendez-vous pour bien accompagner, monter en compétences et former. C'est un défi, effectivement, d'accompagner la montée en compétences. L'apprentissage est toujours un défi. À nous d'être pédagogues, on a des outils que nous sommes en train de construire pour faciliter cet apprentissage, des managers qui accompagnent, des formateurs, des tuteurs. Aujourd'hui, c'est le manager qui accompagne énormément, on a des tuteurs, des formateurs. Le défi, est-ce que c'est une difficulté ? Pas tant que ça, c'est aussi une diversité et c'est aussi une richesse. Donc on est vraiment à l'écoute et pour accompagner tous ces profils-là. Alors l'adresse rue Eiffel, si c'est par courrier à l'ancienne, rue Eiffel à Segré, sinon par mail, donc sur notre adresse Longchamp, recrute, nous rejoindre sur le site internet Longchamp, ou sinon une adresse générique par mail, Longchamp recrutement, @longchamp.com, et sinon on est joignable par téléphone sur le site de Segré. Tous les moyens sont disponibles.
Et oui, et lors de la visite de l'atelier, nous avons aussi rencontré entre autres Evelyne Billet avec une jolie ceinture en cuir façon écharpe de Miss pour fêter son dernier jour de travail après plus de 40 ans passés sur ce site. Elle était toujours affairée à ses machines, sans doute pour la dernière fois.
À une bonne journée, bien organisée et puis très touchante de la part de mes collègues aussi, et puis bien encadrée. Bah, en fait, elles m'ont offert des cadeaux et puis j'ai fait le tour des ateliers et puis j'ai vu comment... Parce qu'on ne voit pas toujours, en fait, les filles qui travaillent dans le cuir et puis à la coupe et tout ça, donc voilà. Ici, la double aiguille, en fait, les chaînes, le bordage en finition et la piqûre. Trois machines, j'ai trois passes, je fais trois passes. Ouais. Ici, là-bas et là-bas au bordage, alors, en fait, fermer le sac. Eh bien, j'ai travaillé, comme disait le monsieur, 22 ans chez Jacquel, à faire des vêtements, la lingerie, des maillots de bain. Et après, on a été racheté par Longchamp. Et ça fait 20 ans, donc ça fait 42 ans de carrière. Bah, l'ambiance aussi. Et puis le savoir-faire, les choses, le cuir et tout, les toiles. C'est sympa, c'est agréable à travailler. Ouais. Oui, parce que je faisais des prototypes, en fait, des pièces uniques, tout ça. Il faut être précise. Ouais, précise et puis bah, un beau travail, maniaque quand même, hein, minutieuse. Ouais. Faire attention, pas gâcher les cuirs, les toiles et tout. Hein. Ils recherchent du personnel, hein, je sais pas. Ce serait bien de venir voir, faire le savoir-faire.
Évidemment, un savoir-faire qu'Evelyne est très fière aussi d'avoir acquis au fil de toutes ces années et qu'elle aimerait transmettre sans doute. D'ailleurs, on le rappelle, 5 postes sont à pourvoir à court terme sur le site de Château-Gontier, sans compter une vague de recrutement un peu plus importante à venir l'année prochaine, en 2022. Et si vous êtes intéressé pour postuler, rendez-vous sur le site de Longchamp, onglet « Nous rejoindre ». C'est aussi simple que ça, avec, on l'a dit aussi, tous les moyens évoqués un peu plus tôt dans cette interview. On fait une petite pause en musique et on revient après pour du sport et en l'occurrence du foot aujourd'hui.
T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits, des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé de et de leur vie, c'est elle que t'as choisie. Tu zigues, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après 4 vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du fil et de ta vie. Tous ces beaux voyages, c'est la prison. Quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits, des foules de visages et de
choisi. Ça y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits, des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de leur vie, c'est elle que t'as choisie. Ah,
c'était Voyou avec sa chanson Les Humains, issue de son album Des Confettis en désordre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'agité du local sur l'autre radio. Et comme indiqué juste avant, on a deux chroniques aujourd'hui. On commence avec une chronique sport, comme chaque vendredi, proposée par Steven, qui s'est aujourd'hui intéressé au club de football d'Azé et à son évolution, notamment au niveau des jeunes licenciés en école de football.
Alors Corentin, tu es responsable de l'école de foot d'Azé justement. Quel est un peu ton rôle et ta philosophie au sein de ta structure ?
Donc depuis cette année, depuis le départ de mon collègue Ambroise, j'ai repris la responsabilité de l'école de foot d'Azé. Donc je suis responsable de différentes catégories, donc la catégorie U7, U9, U11. Donc je parlerai de la catégorie U11 plus tard. Et j'ai également une équipe U15 dans le groupement de Château-Gontier. Et depuis l'année dernière, on a créé une section baby-foot. Et donc, je suis aussi le responsable de cette catégorie-là.
Alors, comment se porte un peu ton club, notamment en termes de licenciés jeunes? Est-ce que justement, avec la Covid, les jeunes sont revenus? Est-ce que tu as peut-être un autre public au sein de ta structure?
Alors, nous, le club se porte bien. Au niveau des licenciés, on est quand même à 49 licenciés sur l'école de foot. Donc, ce qui est plutôt pas mal. On a pas mal de nouveaux joueurs. Donc, par exemple, sur la catégorie U7, U9, en école de foot, j'ai quand même 5-6 nouveaux joueurs. Donc, ce qui est quand même intéressant. On a quelques arrêts, bien sûr, mais plus parce qu'ils avaient plus envie de faire de foot et ils se délassaient de la pratique. Donc, voilà. On a récupéré des joueurs et puis avec le groupement de Château-Gontier, nous on a ce groupement qui permet à tous nos joueurs de jouer au niveau leur niveau adapté pour eux. On a des joueurs par exemple qui n'ont pas forcément un niveau région, qui vont plutôt jouer dans le groupement, dans les équipes district. Et à l'inverse, nous si on était qu'à AZ, on pourrait pas proposer un niveau région. Et on a des joueurs avec un bon niveau qui peuvent jouer à ce niveau-là. Donc le club se porte bien. Au niveau senior, on a aussi réussi à faire 3 équipes avec une entente pour l'équipe C avec Argenton. Donc le club se porte plutôt bien en termes de licenciés.
À des projets d'entente qui, je pense, sont très importants, dû aussi avec la crise sanitaire, de pouvoir se regrouper parfois et de proposer justement un niveau de jeu adapté à tous les joueurs. Est-ce que la Covid a pas été extrêmement traumatisante au sein des bénévoles, par exemple, ou même économiquement pour le club ?
Au sein des bénévoles, non. J'ai justement l'impression qu'on ait plus de bénévoles, plus sur l'école de foot. Moi, par exemple, je tourne environ 4-5 bénévoles sur chaque catégorie, avec des jeunes joueurs du club, donc qui évoluent en U15, U18, qui m'aident sur l'école de foot le mercredi et le samedi matin pour ceux qui peuvent sur les plateaux. Donc non, très bien au niveau des bénévoles.
On peut dire que du coup l'école de foot d'Azé est une structure, on va dire, qui permet justement de former des joueurs, mais aussi des jeunes bénévoles. Et donc je pense que tu en fais partie de la formation de cadre, comme on peut dire, et justement que c'est une école de vie et qui est très importante dans un club.
Ouais, notre école de foot, elle fonctionne bien de par sa formation, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont partis au, on a trois joueurs qui sont partis au Stade Lavallois, donc qui est un bon club de football. Donc on peut dire qu'on est quand même une bonne école de foot. Et puis oui, on a aussi les éducateurs qui se forment avec différents modules au district.
Alors on parle des formations, toi tu aujourd'hui tu es éducateur sportif au sein de la structure. L'importance du sport n'a jamais été aussi importante, je pense, surtout avec la crise sanitaire. Alors comment aujourd'hui tu vois un peu ton rôle, les actions, ton rôle auprès des jeunes, auprès de la structure
Moi, mon rôle, ça va plus être déjà de les former au niveau du foot, mais aussi, moi, c'est plus ma philosophie qu'ils prennent un maximum de plaisir quand ils viennent faire du foot. On sait que le Covid, ça les a arrêtés pendant, allez, on va dire 1 an et demi. Nous, je sais qu'on avait mis des petites choses en place qui font qu'ils ont quand même toujours continué à faire du foot. On avait mis, par exemple, des vidéos, donc avec des petits défis que nous, éducateurs, on proposait. Où fallait que eux nous renvoient une vidéo en faisant le défi. Donc on a quand même pas mal d'enfants qui répondaient, qui faisaient les défis. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a réussi aussi à trouver des solutions sur le terrain pour pouvoir faire pratiquer l'enfant, même si avec le Covid il n'y avait pas le droit au contact, par exemple. Nous on essayait de trouver du travail technique individuel. Donc par exemple sur de la conduite de balle, du jonglage, qui fait que l'enfant quand même pu pratiquer du foot pendant cette période qui était compliquée. Et je pense que c'est un incident sur maintenant, puisque nous on est par exemple sur l'école de foot, je suis à 83% de présence à l'entraînement, donc ce qui est vraiment pas mal. Les enfants viennent à l'entraînement et on sent que ils ont retrouvé le plaisir de venir faire du foot, quoi.
Est-ce que le club d'Azé, justement, a des ambitions sportives, outre les jeunes, mais par rapport à ceux des équipes Fagnon, est-ce que vous avez des objectifs?
Alors du coup l'objectif était l'année dernière de monter en D2. On était en D3 depuis quelques années où on finissait deuxième. Et grâce au Covid, on va dire que nous avons réussi à monter d'un échelon. Donc c'est bien. Donc là c'est plutôt de jouer, on va dire, le maintien pour commencer en deuxième division pour l'équipe première. Et puis se faire plaisir pour les équipes B et C. Donc l'équipe B qui est montée aussi en troisième division cette année. Donc voilà.
Eh bien, je te remercie, Corentin, d'avoir pris le temps de répondre à nos échanges. On souhaite une très belle saison au club de foot d'Azé et on espère justement que les ambitions sportives se réaliseront et on espère aussi que ton école de foot restera dynamique comme cela se passe.
Ok, merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi, Steven, pour cette nouvelle chronique sportive. Prochain rendez-vous avec le sport, peut-être le football, peut-être le basket, peut-être un autre sport, ce sera vendredi prochain. Et je vous le disais aujourd'hui, deux chroniques. Et oui, après le sport, place au cinéma, avec Audrey Bénès, qui est directrice artistique d'Atmosphère 53 et qui nous donne son film coup de cœur de cette semaine.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous. Cette semaine cinématographique du 10 novembre 2021, l'association Atmosphère 53, l'association de cinéma en Mayenne, vous propose un nouveau coup de cœur. Et ce film coup de cœur, cette fois-ci, c'est Tralala. Tralala, c'est vraiment un titre de film, c'est le nouveau film des frères Larrieux, ces cinéastes trublions qui nous viennent des Pyrénées et nous ont habitués à des films fantaisistes, originaux, souvent caustiques et en même temps qui parlent de désir et de quête de soi-même. Pour exemple, on peut citer en effet des films des frères Larrieux qui sont faits précédemment, 21 nuits avec Patty, ou L'amour est un crime parfait, ou encore Les derniers jours du monde, dans lesquels on retrouvait déjà Mathieu Amalric, qui est un peu leur acteur fétiche. Et là, c'est un film où on retrouve en effet le grand acteur Mathieu Amalric, mais dans une comédie musicale complètement décalée et sur la corde en permanence. C'est vrai que c'est plutôt rare, les comédies musicales dans le paysage du cinéma français. On pense évidemment à Jacques Demy, à Alain René et puis plus récemment à Christophe Honoré, mais c'est rare les cinéastes qui se confrontent à ce genre qui peut être vraiment un genre assez périlleux, surtout là dans le cinéma français où on retrouve des acteurs qu'on connaît très bien, un cinéma qui ressemble à vraiment du cinéma populaire, avec des acteurs comme Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Mathieu Amalric, on l'a dit, et d'autres. Et d'un coup, ça se met à chanter. Donc évidemment, la comédie musicale n'est pas un genre facile. Et là, on est sur la corde tout le temps parce que il jongle justement, mais avec brio. Entre quelque chose qui pourrait vite basculer dans le ridicule tellement le ton est décalé et déjanté, mais en fait qui n'y bascule jamais. Et c'est vraiment la grande force du film, c'est de vraiment mêler un ton humoristique et déjanté et en même temps beaucoup de mélancolie et quelque chose de un ton très touchant et très attachant. C'est vrai que a priori le film pourrait ressembler comme ça à un gros délire, puisque je vous explique, donc c'est Mathieu Amalric qui joue le rôle d'un musicien à moitié sans abri, enfin en tout cas très pauvre et qui vit dans une grande précarité, qui semble un peu foutraque et un peu fou, qui erre seul dans les rues de Paris à chanter avec sa guitare électrique sans grand succès, et qui du jour au lendemain se retrouve, parce qu'il a vu, il a cru voir une apparition à une jeune fille en bleu, il se retrouve à Lourdes à jouer du banjo à l'effigie de la Vierge. Alors évidemment on se dit oulala, ça part vraiment comme un gros délire, et en fait c'est une vraie réflexion sur le fait d'être en vie, qu'est-ce que c'est être en vie, qu'est-ce que c'est être soi-même, sur la création aussi, sur le rapport à la famille, puisqu'on est entre voilà un film de réflexion sur la création, sur l'imaginaire et sur la quête d'apprendre à se connaître en fait, donc à se connaître soi-même, et en même temps entre on est aussi dans le film populaire de famille sur les liens familiaux et le retour du fils prodigue. Donc évidemment le lien à la création il est multiple, hein, puisque on est à Lourdes, on a le lien avec l'imagerie évidemment religieuse et christique, et en même temps on a vraiment cette création musicale, cette création de savoir s'inventer soi-même. Donc c'est toutes ces réflexions là et ces thèmes qu'aborde ce film là et donc je le disais, on est vraiment dans un film musical et une comédie musicale extrêmement originale, avec des chansons signées Philippe Catherine, Étienne Dao, Jeanne Chéral ou encore Dominique A. Et ce qui est vraiment merveilleux dans ce film-là, c'est qu'on a une flopée d'acteurs merveilleux et tous plus drôles et différents les uns des autres, et puis différents aussi parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ce genre de choses, de rôles. Ils nous ont pas forcément habitués à ça. Par exemple, Mai Wen s'éclate en jouant la grande bourgeoise, Josiane Balasko, la mère complètement faux-folle, Mélanie Thierry, la maîtresse délaissée mais encore complètement enflammée. On retrouve également Denis Lavant ou la jeune Galatea Bellugi, et puis bien sûr le charmeur et électrisant Bertrand Belin qui a vraiment un rôle magnifique du frère maudit de Mathieu Amalric. Donc voilà, plein de choses, un très beau programme et vraiment une comédie extrêmement surprenante et malicieuse et mélancolique à la fois, dans les Pyrénées, à Lourdes. Vraiment, ça fait du bien, c'est frais, ça change et on vous le recommande très chaudement. Bon film.
Merci beaucoup Audrey, je pense que là vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller voir Tralala, elle l'a très bien vendue. Et retour donc de cette chronique vendue avec des guillemets bien sûr, hein. Et retour de cette chronique cinéma à son jour habituel, mardi prochain, ce sera le 16 novembre. On est vendredi et comme chaque vendredi on fait un petit tour des bons plans pour ce week-end, des petites choses sympathiques à faire ou à voir. Et notamment il y a les expositions dans le cadre du Prestival Info à Château-Gontier, expositions qui ne sont pas visibles que ce week-end, elles le seront jusqu'au 28 novembre, notamment au Jardin des Senteurs, une exposition sur la division d'Aguet dans la guerre du Golfe au début des années 90, ça c'est à voir donc Jardin des Senteurs, à la médiathèque de Château-Gontier, vous avez même deux expositions, l'une sur les bénévoles de la fondation Claude Pompidou, avec une rencontre justement avec le créateur de l'exposition Jean-Louis Courtina, qui est proposé mardi prochain le 16 novembre à 19h à la médiathèque, c'est gratuit, et puis je vous l'ai dit, deux expositions à la médiathèque. La deuxième est consacrée à la revue 303, une maison d'édition basée à Nantes. Et une autre exposition aussi également proposée dans le cadre de ce Prestival Info à Château-Gontier pour la 10e édition du festival. Elle avait déjà été proposée L'an dernier, mais annulée, là elle est reproposée et visible à nouveau à l'Hôtel de Ville. C'est l'exposition du photographe lavallois Arnaud Rouanet qui s'appelle « La culture chez les jeunes en question », un projet mené d'ailleurs avec des élèves du département. Ce week-end aussi, on vous propose entre autres d'aller à Sablé-sur-Sarthe, à la salle de l'Entracte, qui a toute une programmation assez riche hein, ce mois de novembre, avec notamment demain soir la pièce de théâtre « La machine de Turing ». Demain soir à 20h30, elle est proposée par Benoît Solès, une pièce qui a d'ailleurs été récompensée de 4 Molières. C'est l'histoire d'Alan Turing, le mathématicien qui a construit la première machine pensante et a réussi aussi à briser le code de l'énigma pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pour ça que son nom vous dit quelque chose. Mais il est ensuite, malgré tout ça, resté dans l'oubli pendant les années 50. Donc c'est vraiment un spectacle sur son histoire. Si vous êtes intéressé, il reste quelques places sur le site de l'Entracte. Et puis ce week-end aussi, on peut se rendre du côté de Laval pour le Laval Opéra Festival. C'est la 6e édition. Quand je disais ce week-end, c'est plus précisément 2 soirées, ce soir vendredi et demain soir samedi au Théâtre de Laval avec 2 propositions. La première ce soir, c'est donc celle de la chanteuse mezzo-soprano Maria Mirante et du pianiste Aurélien Pontier qui vous propose de voyager en Espagne avec leur programme Amor y Passion avec là aussi un très bel accent espagnol. Vous avez vu aussi bien que mon accent anglais. Et puis demain soir, 5 chanteurs et le pianiste Paul Montag seront sur scène pour un florilège du répertoire français et italien. Si vous êtes intéressé, la billetterie est à l'office de tourisme de Laval ou bien sur place le soir même. Voilà, ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques petits plans, petites idées en tout cas pour ce week-end ou pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est la fin de cette émission, l'Agité du local pour ce vendredi. À suivre à 20h à l'antenne, il y aura Passe-moi le thème. Ce soir, en hommage au Bataclan, avec des enregistrements des lives d'artistes en concert là-bas. Et vous verrez, ils sont nombreux. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.